Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Cette parole, alors, je vais vous donner la référence. C'est dans le livre des Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 13 et verset 10. Alors, c'est une histoire, on la retrouve nulle part ailleurs, mais ce qui nous montre bien qu'il y a quelque chose, il ne faut pas s'arrêter en route. Surtout quand on est bien parti. Alors, il y a des gens qui partent mal et qui se disent, bon, au bout d'un certain temps, il vaut mieux pas aller plus loin parce que c'est la catastrophe et la faillite. Mais il y a des situations comme celle que nous allons voir ce soir où ça part bien. Et finalement, pour une raison ou pour une autre, et nous allons essayer d'étudier un petit peu, d'examiner ces raisons, on s'aperçoit que quelquefois, d'une manière sotte ou d'une manière inexpliquée et inexplicable, on s'arrête et puis, on s'aperçoit que on perd ce que Dieu voulait nous donner. C'est-à-dire la bénédiction, sa bénédiction. Il faut toujours avoir en vue que quand Dieu nous demande, quand il nous mandate, quand il nous dirige ou nous oriente vers un but, un plan, quelque chose qui met dans notre cœur, il faut aller jusqu'au bout parce que c'est bien dommage de perdre l'avantage. Alors on va lire ça. Et je vais donner quelques mots de commentaire sur ce passage. La 37e année de Joas, roi de Juda, alors c'est une vieille histoire, c'est pas d'aujourd'hui, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie, il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il se détourna d'aucun des péchés, de Jéroboam, fils de Nébat, qui était roi avant lui, et qui avait fait pécher Israël, et s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amadias, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, il mourut, et Jéroboam s'assit sur le trône, Jéroboam II celui-ci. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Il pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée, donc le prophète, lui dit « prends un arc et des flèches ». Il prit un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main ». Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et lui dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient ». Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire ». Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches ». Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. Une histoire qui est quand même assez intéressante dans le sens qu'elle nous laisse, la leçon spirituelle que nous pouvons en tirer, puis une leçon de foi naturellement, ou plutôt une leçon de désobéissance ou d'incrédulité. C'est selon, naturellement. Alors je voudrais vous dire que quelquefois il y a eu confusion dans les lecteurs de la Bible. Il y a deux Joas et deux rois. Il y a Joas qui est le roi de Juda, et en même temps, simultanément, il y a Joas qui est roi d'Israël. Souvent on mélange, on ne sait plus. Alors je voudrais quand même vous dire que, en ce qui concerne Joas, roi de Juda, c'est un bon roi. Un roi qui sert Dieu. Bon, il n'était pas parfait, parce qu'il y a eu aussi dans sa vie toutes sortes de lacunes et de problèmes, mais c'était un roi qui, quand même, on peut dire, ce qu'il fit durant sa vie, a été honoré de Dieu. Un roi béni. Et puis il y a le deuxième dont nous parlons, c'est le roi d'Israël, parce que pour ceux qui peut-être ont besoin de connaître l'histoire, hein, Israël était un royaume entier à un moment donné sous le règne du roi Saül, le roi David et le roi Salomon. Ensuite, il y a eu un schisme, c'est-à-dire que il y a eu à cause de l'idolâtrie et puis des désobéissances de Salomon, hein, et puis de Roboam, son fils, le successeur de Salomon. Je ne veux pas être trop compliqué, mais je voudrais quand même vous dire qu'il y a eu un schisme, une division dans le royaume entier d'Israël s'est divisé en deux. Il y avait la plus grande partie vers le nord, royaume du nord, on l'a appelé comme ça, dont la capitale était Samarie, et c'était le royaume d'Israël avec un roi, et le roi de l'époque où nous avons lu, il s'appelait Joas. Et puis il y avait également dans la division la petite partie, c'est-à-dire la partie de Judée, que l'on a appelée Juda. Et il y avait un roi qui s'appelait aussi Joas. Ce roi de Juda était un bon roi. Le roi du nord, c'est-à-dire Joas à Samarie, eh bien, était, on va le lire, on va voir, un homme qui, quelque part, il croyait en Dieu, ça c'est sûr. Et il avait toutes les traditions, etc., etc. Mais bon, il n'y avait plus rien. Hein. C'était véritablement, on pourrait dire, une croyance très superficielle, à tel point qu'il mélangeait entre l'adoration de Dieu, du Dieu d'Israël, avec les idoles, avec toutes sortes de choses, des faux dieux, de l'occultisme. Enfin bon, voilà, c'était quelque chose qui était certainement, eh bien là, contraire à la pensée de Dieu. Alors on voit que dans cette situation, puisque la chose s'y prête, on s'aperçoit qu'à un moment donné, les Syriens, ça existe encore la Syrie aujourd'hui, hein, et ils sont encore en place, eh bien les Syriens se sont mis en rangée pour livrer bataille au roi d'Israël, pour battre le roi d'Israël, c'est-à-dire Joas. Pour l'instant, on ne parle pas de Juda, hein, mais l'armée syrienne était une armée très très puissante, hein, faut pas l'oublier, hein. Et on voit que la guerre n'est pas finie, hein, puisque ça continue encore aujourd'hui. Hein. Vous vous rendez compte, hein, ça fait des siècles et des siècles. Mais bon, ceci dit, on s'aperçoit que bon, les armées de Syrie se mettent en rang pour aller investir le royaume donc d'Israël et prendre la capitale qui s'appelle Samarie. La capitale de du sud, c'était Jérusalem, hein, la Judée, Juda, tribu de Juda, etc. Bon. Ensuite, il nous est donné un petit peu le bilan de la vie de Joas, roi d'Israël. C'était catastrophique. Il nous est parlé, même s'il a fait des exploits, même si à un moment donné il s'est mis en guerre avec son frère, c'est-à-dire le roi de Juda, parce que c'était la même race, hein, c'était les Juifs les uns et les autres. Faire la guerre, c'était une guerre fratricide. Et puis à un moment donné, eh bien, il nous a dit, bah, comme tous les autres, hein, il a régné 16 ans, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Heureusement qu'on a inventé le quinquennat aujourd'hui. Enfin, je dis ça au passage, mais bon, je ne veux pas faire de politique. Alors donc, voilà, 16 ans, c'est pas mal. Pour un mauvais roi, c'était déjà, il fallait le supporter. Hein. Parce qu'un roi, c'était, attention, hein, il faisait ce qu'il voulait. Alors, il s'est couché avec ses pères, et puis voilà, son fils, qui s'appelait Jéroboam, qui va prendre le chiffre 2, Jéroboam 2, eh bien, va prendre le trône. Et puis, bon, après, il nous dit qu'il est enterré, ce qui est tout à fait normal. Et voilà qu'apparaît le prophète dans notre texte, le prophète Élisée. C'est un homme de Dieu, Élisée. Un successeur d'Élie, le prophète. Un homme où on peut quand même le caractériser, un homme de foi. Et l'homme des miracles. L'homme des grandes choses. L'homme du surnaturel. L'homme de la puissance. L'homme des guérisons aussi. Hein. Alors, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu se servait d'hommes comme Élie, comme Élisée. Et il parlait à Israël, et puis il faisait des choses extraordinaires pour finalement, eh bien là, soit apporter des délivrances, des guérisons, apporter des messages également au peuple. Surtout, le peuple d'Israël était un peuple rebelle, hein, un peuple qui disait « moi je crois en Dieu », mais finalement, il n'y avait rien du tout derrière. Hein. Alors Élisée, eh bien là, le grand prophète, était de cette époque, et puis il nous est simplement, il était atteint de la maladie dont il mourut. Vous savez qu'on meurt toujours de quelque chose, hein, hein. Non, mais c'est pour vous rassurer que je dis ça, hein. Bon, il y en a qui meurent peut-être par accident et tout ça, mais bon, voilà. Puis bon, on n'est pas à l'époque comme la nôtre, hein, mais de toute façon, même à notre époque, c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Alors, il nous est simplement rappelé qu'il était atteint de la maladie dont il mourut. Et avant de mourir, après, naturellement. Eh bien, Joas, le roi d'Israël, se sentant menacé par les Syriens, par l'armée puissante, de la Syrie, alors qu'il était déjà très malade, disait Élisée, l'a fait appeler. Il lui a dit, viens dans mon palais parce que j'ai quelque chose à te demander, ça brûle. On est en train de me préparer la guerre et moi je ne sais pas quoi faire. Parce que, voyez-vous, le problème dans tout ça, c'est que ces rois, comme ce peuple d'Israël, quand tout allait bien, ils oubliaient Dieu. Pourquoi se casser la tête, hein? Tout va bien, on est béni, c'est sensationnel, alors c'est pas la peine de s'inquiéter, hein? Voilà. Mais quand ça va mal et quand ça allait mal, alors à ce moment-là, ils se souvenaient qu'ils étaient hébreux. Ils se souvenaient qu'ils étaient juifs. Ils se souvenaient de Moïse. Ils se souvenaient des grands miracles, des grands prodiges, des choses extraordinaires. Alors là, ils commencent à réfléchir en disant, mais les Syriens vont nous envahir, ils vont nous passer au fil de l'épée. Lui, il pensait peut-être à son trône, hein, les autres, c'était peut-être autre chose, mais il se dit, mais voilà, ils vont prendre, ils vont piller nos richesses, etc., et ils vont certainement nous prendre la vie. Alors, il a fait appeler le prophète, qui était certainement déjà très malade, probablement, et le prophète, donc, ou plutôt, je ne sais comment, Élisée était malade, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, c'est-à-dire, c'est pas le prophète qui s'est déplacé, mais c'est le roi qui s'est déplacé en personne, donc ça devait urger, hein, parce que c'est un roi qui se déplace, c'est que vraiment, il y avait certainement quelque chose qui était grave. Alors, il a pleuré sur le visage, enfin, ça veut dire qu'il s'est lamenté de voir Élisée malade, hein, il s'en est jamais trop occupé d'Élisée, mais là, il a besoin. Et Élisée était le médiateur entre, finalement, le peuple, hein, et Dieu, en quelque sorte. C'était un homme de l'esprit, Élisée. Et quand il est arrivé auprès d'Élisée malade, alors il a pleuré, donc, en disant, ben voilà, il dira ces mots, qui sont des hébraïsmes, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Ce sont des bons mots, ça. Hein. On n'entend plus ça hein, aujourd'hui. Hein. Vous dites ça pour prononcer, je ne sais pas moi, quelle louange et puis quel compliment, char d'Israël et sa cavalerie, vous rendez compte? Vous dites ça à votre patron, vous allez voir un peu. Hein. Oh, il va pas être très heureux. Mais bon, c'est quand même l'ancien temps, et voilà, c'est des choses qui se faisaient à l'époque. Ça voulait dire, mais je pleure sur toi, tu vas mourir, et puis si tu meurs, moi je serai tout seul. Alors, il fallait qu'il se réveille avant, le roi. Hein. Parce que bon, quelquefois, il s'y prend un peu tard. Hein. Mais bon, il n'est pas encore mort, Élisée. Alors il a pleuré, donc il dira ces mots, « mon père ». Et Élisée lui dit, alors à ce moment-là, il va lui dire ces paroles. « Prends un arc et des flèches. » Voilà le message. Il aurait pu lui dire, « Écoute, Joas, t'as intérêt à te repentir. T'as intérêt de demander pardon au peuple. » T'as intérêt à arrêter tes petites histoires d'idolâtrie, d'adorer un dieu ici, un dieu là, et de trifouiller avec, excusez-moi l'expression, mais hein, de commercer avec l'occultisme, avec toutes ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Non, il lui dit pas. Il lui dit, prends un arc et des flèches. C'est un message. Un message qui a sa raison d'être. Il lui dit rien d'autre. Alors, le roi, il sait pas ce que ça signifie encore, il va l'apprendre. Et le roi d'Israël prit un arc et des flèches. Il obéit. Il commence par obéir. Il ne sait pas pourquoi, mais il le fait. Puis Élisée reprend la parole, voyant dans les mains du roi l'arc et puis les flèches, hein, tout un faisceau de flèches probablement dans le carquois. Et Élisée dit au roi d'Israël, « Maintenant tu vas bander l'arc avec ta main. » Est-ce que vous avez fait du tir à l'arc ? Vous n'êtes pas indien? Non, vous êtes nazérien. Hein? Bon, c'est vrai que ça serait quand même assez original de se promener la avenue de la République avec un arc et des flèches. C'est sorti du Moyen-Âge, tout ça. Hein? Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Hein? C'était redoutable. Hein? Parce que c'était quand même des armes qui avaient quand même leur puissance. Hein? Alors, il lui dit tout simplement, tu vas bander l'arc. Tu vas faire le geste. Alors, je ne sais pas... Hein, moi, je ne sais pas comment ça... J'ai jamais tellement utilisé ce genre de choses. Mais à l'époque, ça voulait dire quelque chose. C'était vraiment l'arme par excellence dans les armées. Hein. Et quand il lui bandait, donc, de sa main, il l'a tiré au maximum, probablement. Élisée, à ce moment-là, hein, s'est mis où ? Je ne sais pas dans quelle position, mais il a pris ses mains, il a posé ses mains sur les mains du roi. Imaginez-vous. Le roi, l'arc, la flèche, et le prophète a touché les mains d'Élisée, tout simplement. C'est symbolique, hein? Symbolique. Et il lui a dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. L'Orient, c'était la direction Samarie ici, Damas, là, hein, vers le nord, un peu plus, mais c'est l'Orient. Donc il y avait une direction dans tout cela. Puisque le roi dans l'histoire, on la connaît, parce que bon, je voulais pas tout raconter dans le détail, mais c'était véritablement, eh bien là, le conflit qui allait se préparer. Il y a un symbole derrière. Ouvre la fenêtre à l'Orient, alors il l'a ouvert, et Élisée lui dit « tire ». Voilà, tu tires à travers comme ça, sans savoir. Tu vas tirer parce qu'il y a un geste et il y a derrière un message. Il y a beaucoup de symbolisme dans la Bible, vous avez remarqué. Dans l'Ancien Testament, très très fortement. Hein. Dans le Nouveau Testament, on en trouve un peu moins. Sinon, dans le livre de l'Apocalypse. Alors, les symbolismes, hein, ça, il y en a beaucoup. Hein. Mais bon, faut pas naturellement tout interpréter avec le symbolisme. Jésus s'est servi du symbolisme à travers les paraboles. Et c'était tout à fait compréhensible parce qu'il y avait déjà aussi eh bien, un message, une leçon. Alors, il est ouvert, Élisée lui dit « mais tire !» Alors il a tiré. Encore, finalement, eh bien, un acte d'obéissance. Il ne sait pas pourquoi, parce que tirer une flèche comme ça par la fenêtre, bon, malheur à celui qui se trouve en dessous. Hein. C'était peut-être pas prévu au passage, mais bon, toujours est-il que... Enfin, on peut... Bon, je m'arrête là parce qu'il ne s'est rien écrit. Alors, Élisée lui dit... Parce que quand il va avoir tiré la flèche, il va lui donner un message. Il va lui dire, c'est une flèche de délivrance de la part de Dieu, de la part de l'Éternel, et il ajoute, une flèche de délivrance contre les Syriens. Il n'y avait pas de Syriens en vue encore, hein. Peut-être qu'ils étaient déjà en route pour investir finalement la capitale de Samarie, etc. Et une flèche de délivrance contre les Syriens, et avec le message qui en découle, tu battras les Syriens à Aphek, c'est-à-dire c'est une ville, jusqu'à leur extermination. C'est-à-dire que tu vas les anéantir. C'est-à-dire que tu vas les vaincre et ils te laisseront tranquille. Ils te laisseront en paix. Voilà. Bon, on est dans le symbole, naturellement. Bon, c'est ce qu'il cherchait, hein, finalement, le roi d'Israël. Il cherchait que, bon, voilà, hein, même si le message est codé, c'était finalement avoir l'assurance, parce que quand vous avez une menace de guerre et que vous êtes dans l'angoisse et le désarroi, vous avez besoin à ce moment-là de d'être réconforté, de savoir que finalement vous n'êtes pas tout seul et puis que Dieu est avec vous. Comme quoi, un mauvais roi comme Joas, même s'il était mauvais roi, Dieu ne l'avait pas abandonné. Ce qui montre quelquefois on peut marcher en zigzag dans la vie. Oui. On peut faire toutes sortes de choses, parce que bon, voilà, c'est comme ça, parce qu'on choisit soi-même. Mais c'est pas pour ça que, et ça c'est déjà l'esprit de l'évangile, hein, c'est pas pour ça que Dieu nous dit, bah, parce que tu marches pas dans mes voies, tu vas te couper les oreilles, hein, la foudre va tomber sur toi, et toutes sortes de choses semblables. Non, on voit déjà qu'il y a l'esprit de l'évangile. Toi, tu n'as pas été un bon roi, Joas, mais Dieu, c'est pas pour ça qu'il va t'abandonner. Parce que tu restes quand même le peuple de Dieu. Même si tu es désobéissant, même si tu as fait des choses qui sont contraires, bah, tu restes quand même le peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire pour chacun d'entre nous, si on va un petit peu plus loin, qu'on peut faire tout et n'importe quoi et que le Seigneur va continuer à nous bénir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je touche au feu, mais bon, Seigneur est là, il va certainement nous envoyer un extincteur et puis ça va s'arrêter. Hein. Ouais. Ben, il y a un moment ou un autre, c'est vrai qu'on peut passer à travers les gouttes, mais à un moment donné, l'orage va nous tomber sur le... Et là, on pourra pas accuser personne, puisque finalement... Alors, c'est un peu ce qui se passe, là. Dieu lui dit, mais c'est une flèche de délivrance, un symbole, contre tes ennemis, et tu vas les battre, et tu vas les vaincre, hein, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Parce que ça aurait pu s'arrêter là. Élisée aurait pu dire, ben maintenant, tu vois, je t'ai donné un message... Voilà, Dieu t'a parlé, tu vas être vainqueur, etc. Mais ça s'arrête pas là. Et c'est là, justement, la question qui est intéressante dans notre considération ce soir, c'est la suite. Élisée dit encore, quelquefois on pourrait dire, Seigneur, n'en demande pas trop, hein, parce que j'ai déjà fait quelquefois un gros effort. Hein. Non, non. Il dit encore, prends les flèches. Il n'y en a qu'une hein, qui est partie jusqu'ici. Hein. Il n'y en a qu'une. Bon, ça c'était l'image. Prends les flèches. Il les prend. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, c'est plus par la fenêtre là maintenant, tu frappes contre terre, tes ennemis, c'est le symbole que finalement ils sont là, ils sont à tes pieds, bon tu vas les vaincre mais ils sont déjà à tes pieds. Déjà il y a une promesse sur laquelle nous devons nous, nous accrocher que l'ennemi, il est déjà vaincu. D'accord ? Dans l'évangile, c'est ce que Jésus nous dit. J'ai vaincu l'ennemi. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Il y a énormément de promesses où il nous est dit que Jésus a terrassé les puissances, les autorités, les mauvais esprits dans les lieux célestes. Et là, cette image de tirer à terre, ça veut dire, eh bien, que pour Dieu, la victoire est déjà acquise. Maintenant, Dieu peut avoir, finalement, la connaissance et la souveraineté sur les délivrances. Maintenant, faut-il que l'homme aille jusqu'au bout? Faut-il que l'homme continue à croire et continue dans cette foi, dans cette démarche de foi, à persévérer? Pour ça que je vous ai dit, que Dieu nous, Seigneur, pour aller plus loin. Parce que faut aller jusqu'au bout. Si on veut voir vraiment la grâce de Dieu dans notre vie, que ce soit lorsqu'on se débat avec des maladies ou avec une maladie particulière qui nous taraude, qui nous rend malade, ou alors à la recherche d'un travail où ça ne vient pas dans la société dans laquelle aujourd'hui on est, où c'est difficile d'avoir un emploi. C'est vrai, c'est une telle concurrence et puis il faut tellement de choses, ceci, cela, et c'est jamais suffisant. Quand vous êtes trop jeune, on vous dit vous n'avez pas d'expérience. Quand vous êtes trop vieux, vous avez trop d'expérience, mais on ne sait pas quoi faire de vous, parce que vous coûtez trop cher. Et puis, toutes sortes de choses. Alors, c'est un exemple que je prends. Mais c'est ça la société d'aujourd'hui. Alors, attention. Vous avez un arc et vous avez des flèches. L'image des flèches, c'est la foi. On tire. Voilà. L'arc, c'est le propulseur. Ça, c'est certain. Et les flèches, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il lui dit, mais frappe contre terre. Ce n'est plus maintenant de tirer en l'air. C'était la direction. C'est bien. Vers l'Orient, c'est la Syrie. Et la Syrie marche contre toi. Ils vont te détruire, si... Véritablement, eh bien là, je n'interviens pas, mais je viens te donner un message d'espérance. Je viens te dire que c'est possible de vaincre. Tu es effrayé, tu as vraiment une grande angoisse, mais moi je suis là. Alors, il prend les flèches, frappe contre terre, et il frappa trois fois. Une première flèche, deuxième flèche, troisième flèche. Et le drame, c'est le petit mot qui suit, et il s'arrêta. C'est ça ce qui est dommage. Personne ne lui a dit de s'arrêter. Il avait un carquois. Vous savez ce que c'est le carquois? Vous en portez pas là, non? Parce que ça fait un drôle d'effet aussi d'avoir des flèches dans sur le dos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tube, je ne sais pas, c'est en cuir ou une chose comme ça, puis il y a des flèches dedans. Il y avait combien de flèches dans le carquois? Ah, c'est mathématique, c'est la question que je vous pose. Il en a tiré une, il en a tiré trois. La suite? Ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4. 4 et qu'est-ce qu'on lui dit plus tard? 5 ou 6, bon, on va faire 6. Alors, 4, 5, 6. Oui, à peu près. Mais non, moins d'une dizaine, parce qu'il a dit, on va voir. Je vous laisse réfléchir à vos calculettes. On va voir. Donc, frappe contre terre, il frappa trois fois et s'arrêta. C'est pas le prophète qui lui a demandé de s'arrêter. Il avait qu'à tirer, il a tiré déjà trois fois. Une, deux, trois, il avait qu'à prendre une autre et puis tirer jusqu'à épuisement, finalement, de la quantité qu'il avait dans son carquois. Pourquoi personne ne l'arrêtait? Il fallait aller jusqu'au bout. Alors il s'est arrêté. Et à ce moment-là, le prophète Élisée s'est irrité contre le roi et lui a dit qu'il fallait frapper 5 ou 6 fois. 5, c'est déjà pas mal. 6, c'est encore mieux. Eh oui, ça fait 7, Ah! Patrick a trouvé. Il vous donnera la recette. Comment t'as fait? Ah ouais. C'est bien. Bon. Le prophète est irrité parce que finalement, il n'y avait pas d'arrêt. Il fallait continuer. Il fallait tirer tout. Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Et à ce moment-là, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Mais tu les battras pas jusqu'au bout. Et c'est ça le drame. On s'arrête quelquefois en route pour un oui, pour un non, pourquoi, on ne sait pas. Par découragement, parce qu'on est démoralisé après avoir été encouragé. Parce que finalement on a du mal à croire ce Dieu qui est invisible et qui nous parle et qui nous dit d'aller jusqu'au bout. Vous savez qu'on fait des belles expériences dans la vie chrétienne. Mais non aussi, certainement pour eux. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous savez que Dieu nous donne plus que ce qu'on a demandé. Ah! Ah ouais, extraordinaire. On vit des choses quelquefois où on va au minima. On dit, Seigneur, bon, ce sera bien, bien que ce soit pas médiocre. Hein. On dit, Seigneur, bah, tu vois, je me contenterai de ceci et cela. Et puis, c'est bien, on pose, on prie Dieu en disant, tu vois, j'aimerais bien ceci et cela. Et vous savez que notre Dieu, il est extraordinaire. Il nous donne plus que ce que nous avons imaginé et pensé. On a fait une belle expérience dernièrement, pour nous, Myriam et moi, que Dieu donne beaucoup plus qu'on l'a imaginé. Ah ouais ! Je suis content, hein ? Ouais, parce que le Seigneur, il sait véritablement honorer la foi de ceux qui vont jusqu'au bout. Et ça vient pas de nous. Hein. Ouais. Bon. Tout le monde nous dit en ce moment, quand on dit qu'on prend notre retraite, et même des gens de l'extérieur, on a rencontré quelqu'un qu'on connaît comme ça, mais c'est pas un chrétien, qui nous dit, vous l'avez bien mérité. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors nous, avec Myriam, on se dit, mais on n'a rien mérité du tout. On a fait ce qu'on devait faire. Et c'est tout, on l'a fait avec cœur. Mais les gens nous disent, mais vous l'avez bien mérité. On dit, Seigneur, non, moi pour moi, et quand on prie, on dit, Seigneur, on n'a rien mérité, mais on le reçoit comme une grâce. Et on fait des belles expériences parce que Dieu va au-delà. Finalement, on a demandé certaines choses ces derniers temps. Et on a dit, Seigneur, bah, donc, ça serait bien, ça, on va s'en contenter, c'est bien et tout ça. Et on s'aperçoit que le Seigneur, par un concours de circonstances, eh bien, il nous donne au-delà. Et on s'y attendait pas. Parce qu'on ne l'avait pas imaginé, parce qu'on ne l'avait même pas demandé, mais le Seigneur aime faire plaisir. Vous croyez que le Seigneur nous fait plaisir ? J'entends quelqu'un dire, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Et pourtant, on limite le Seigneur. Vous savez, Jésus dit un jour à Pierre, « Jette tes filets. » Pierre, modeste, il n'a pas toujours été, hein, mais modeste à ce moment-là, il n'en jette qu'un. S'il avait jeté ses filets au pluriel, il aurait eu trois fois. Mais comme il avait jeté que son filet, eh bien il a eu la quantité que d'un filet. Et Dieu lui avait, enfin Jésus lui avait laissé entendre qu'il pouvait finalement remplir plusieurs barques. Est-ce qu'on ne limite pas le Seigneur quelquefois dans notre vie ? C'est vrai. Vous écoutez, vous me faites des signes. Mais faites donc des signes à Dieu, pas à moi. Ouais. Nous, notre vie, c'est vrai, depuis des années, dans notre couple, et puis dans notre famille, et puis dans l'église aussi, on a toujours vu des choses. On n'est pas des êtres extraordinaires, on est comme tout le monde. Hein. Mais on a vu des choses, vraiment, où Dieu va au-delà. Vous connaissez l'histoire de la pauvre veuve qui donne ces deux petites pièces, sont nécessaires. Et Jésus va nous dire, mais regardez cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et l'histoire nous raconte que Jésus dira qu'elle a donné plus que tous les riches et tous ceux qui... Voilà, parce que vous savez, c'est pas de donner en quantité, c'est de donner avec la qualité de notre cœur et de donner véritablement pour la gloire de Dieu. Et je peux vous dire que même si Dieu nous doit rien, mais quelquefois, il nous fait vraiment des grandes grâces et il nous fait vraiment plaisir. Ouais. Vous savez qu'on est riche ? Là, on est riche, hein ? Ouais, c'est vrai. On est riche du contentement des choses que Dieu nous a données, sans regarder autour de nous. Ouais. Ouais, j'aimerais bien avoir un yacht hein, pour ma retraite. Je ne sais pas, moi, une Maserati, enfin bon, je ne sais pas, une belle maison, enfin plusieurs. Une dans les montagnes, une au bord de la mer, et puis d'autres quelque part, je ne sais pas où. Hein. Ben vous savez, moi je bénis le Seigneur tous les jours de ce qu'il nous a donné, et c'est formidable. Le contentement, ouais, Paul disait, il était modeste Paul, hein, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Vous dites ça au syndicat d'aujourd'hui. Wow. Alors là, vous allez voir, hein. Mais bon, c'est un petit clin d'œil que je fais au passage, mais c'est pour dire que quand on est enfant de Dieu, ça vient pas tout de suite, mais ça sera en quelque sorte des clins d'œil de Dieu. Vous savez, hein, le Seigneur fait des clins d'œil, et quelquefois il nous dit, ben voilà, hein, sans que tu le mérites. Ben moi, je voudrais quand même que tu aies ceci et cela. On n'a jamais manqué de rien. C'est vrai. Et c'est ce qui est dit dans le livre des psaumes, au chapitre 37, il dit, voilà, le psalmiste dit, je n'ai jamais vu le pauvre manquer de pain. Et c'est vrai, Dieu nous donne. C'est la foi, c'est les flèches, c'est l'arc. Et c'est bien dommage pour le roi, parce que c'était bien parti, le roi Joas. Dieu va lui parler par le prophète. Il va faire les premiers pas. 1, 2, 3, c'est bon. Une flèche, voilà, symbolique, des flèches. Et puis après, ben, il s'arrête. C'est dommage. Ne vous arrêtez pas dans ce que Dieu a mis sur votre cœur. Allez jusqu'au bout. Tirez les flèches de la foi, la persévérance. N'ayez pas à écouter toutes les suggestions qui vous embrouillent, qui font là tout un flou dans votre conscience, dans votre tête, dans vos pensées. Arrête, ça sert à rien. Non, allez jusqu'au bout. Et vous verrez que le Seigneur va vous bénir. Ah ouais, moi j'en suis convaincu. Je vous parlerai pas comme ça si j'ai des bons convaincus. Ah non, parce que bon, c'est vrai, parce que moi je le crois, sincèrement. Et vous savez pourquoi? Parce que vous croyez en lui, c'est tout. C'est pas parce que vous le méritez, mais c'est parce que vous mettez votre confiance en lui. Et Dieu aime ceux qui lui font confiance. Vous ne voyez pas, vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas, mais le Seigneur voit ce qu'il veut vous donner. Et c'est bien dommage de passer à côté de la bénédiction et de nous arrêter en route. Maintenant, tu les battras 3 fois. Tu vas remplir ton filet. Mais moi, je t'avais dit qu'il fallait jeter les autres filets parce que tu aurais eu 10 fois plus. Ouais, limitez le Seigneur, lui qui est infini, lui qui a créé le ciel et la terre. Alors, ça ne veut pas dire que je prêche un évangile de la prospérité. Vous savez, on le voit aux États-Unis dans les églises évangéliques. Alors, vous bénissez le Seigneur, etc. Et puis, vous allez voir, il va vous rendre riche, etc. Moi, ça marche pas, ces trucs-là. Excusez-moi, je dis ces trucs parce que c'est vulgaire. Et Jésus n'a jamais prêché ce genre d'évangile. Le Dieu dollar. Ouais. Alors, ne faites pas, finalement, du Dieu euro, eh bien, tout le sens de votre vie en disant, voilà, Dieu m'a béni parce que je réussis et tout ça. C'est pas ça. On peut réussir sur la terre et puis finalement, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est vrai, mais c'est la qualité de notre cœur, c'est la qualité de notre foi, c'est notre confiance en lui qui fait la différence. Je voudrais simplement terminer. Vous voulez que je termine? Je vois Myriam qui me dit, oh oui, oui, ça fait 45 ans qu'elle m'entend. Eh ben j'irai jusqu'au bout. Voilà, je voudrais vous dire, puisque vous êtes là ce soir, on a tiré des flèches ensemble, c'est vrai, on a tiré des flèches ensemble, il y en a eu, hein. C'était pas pour détruire, hein. Mais on a tiré des flèches, et je pense que maintenant, pour vous, il faut tirer le reste, et vous allez voir que Dieu va bénir cette église, ces églises Redon Saint-Nazaire, parce que il vous a procuré tout ce qui était nécessaire. Votre carquois est plein par les expériences que vous avez faites, par la connaissance que vous avez de la parole, par les promesses de Dieu qui sont dans votre cœur. Alors il va falloir continuer. Moi, je verrai ça au milieu de vous, hein. Mais je suis pas le prophète Élisée. Hein. Vous ne tracassez pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce que Dieu a commencé, faut pas laisser au diable de l'arrêter. Et vous savez, il est pas loin, hein, il est toujours là. Hein. Pour essayer de faire des embûches, des crocs en jambes, essayer d'amener la division, d'amener la querelle, d'amener les critiques, etc., etc. Vous savez ce que c'est quand il y a une église en paix et qui est unie et qui prospère. Alors continuez, parce que c'est pas fini. Hein. On n'a pas été jusque-là pour dire maintenant c'est terminé, on se repose sur nos lauriers. Non, il faut continuer. Et c'est aussi ça, ce message que je voudrais vous laisser. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Et le Seigneur va vous aider dans la communauté, dans son ensemble. Il va bénir l'Église. Et puis Dieu va vous bénir personnellement. Et vous savez, quand on est béni personnellement, eh bien la bénédiction retombe sur les autres. Mais oui, c'est normal. On a reçu pour donner et non pas pour garder égoïstement. comme ce pauvre fermier qui, dans la parabole de Luc au chapitre 13, hein, voilà, Seigneur, hein, c'est formidable, hein, maintenant je vais pouvoir prendre ma retraite, parce que c'était ça, hein, je vais pouvoir profiter, et puis j'ai trop d'argent, etc., etc. Le Seigneur lui dit donc, t'as pas oublié quelque chose? Cette nuit même, tu vas mourir, hein. À quoi ça sert-il? Donc, non, il y a quelque chose qui est vraiment notre trésor, c'est vraiment notre foi en Dieu. Il nous est dit que il est impossible d'être agréable à Dieu, nous dit le livre des Hébreux, Nouveau Testament, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et c'est ça ce que Dieu aime. Les hommes qui vont jusqu'au bout, qui tirent, qui vont jusqu'au bout et qui remportent la victoire. Ouais. « Ô Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur, parce que ça se passe ici, c'est ce que j'ai dit, pour que je vive à ta gloire et que je marche en vaincu. » Pardon ? Ah oui. Voilà, en vainqueur, que le Seigneur nous donne d'être vainqueur. D'abord, ça commence par nous-mêmes, et puis le Seigneur est là pour nous bénir. On va terminer, si vous voulez. On va prier quelques instants. Seigneur, merci pour cette belle histoire. Merci parce qu'elle est pleine de sens. Elle a véritablement, eh bien là, un message pour chacun d'entre nous, pour nous exhorter, Seigneur. Et nous croyons que le fait que Élisée mette ses mains sur les mains du roi d'Israël, c'est pour nous dire que Dieu n'est pas contre nous, il est avec nous. Alors, Seigneur, s'il te plaît, pour chacun d'entre nous qui avons entendu ce message, mets tes mains bénissantes, tes mains guérissantes, tes mains qui soulagent, tes mains qui font des choses extraordinaires, mets tes mains, Seigneur, sur nos mains, afin que nous ayons la persévérance, que nous ayons la vision du résultat, c'est-à-dire la victoire, que nous puissions, Seigneur, eh bien, ne pas nous arrêter en route, mais d'aller jusqu'au but. Et nous te rendons grâce et nous te remercions. Visite-nous les uns et les autres. Fais-nous du bien. Donne-nous d'être encouragés par de telles paroles dans la Bible. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Au nom de Jésus, bénis ton peuple. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.